Un micro à la dérive!
Un micro à la dérive!
Un micro à la dérive!
Un micro à la dérive! L'émission qui vous écoute!
Un micro à la dérive! Un micro à la dérive! Un micro à la dérive.
Un micro à la dérive, qui s'écarte de la direction normale sous l'effet des vents, des courants. Oui, mais un micro qui revient toujours à son port, chargé de sons et d'envie d'ailleurs. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons finir cette série de reportages consacrée aux différents styles de tatoueurs sur le pays de l'Orient par le portrait radio de Ariki, qui officie au salon de tatouage Owata Tiki Tattoo, qui se trouve au 65 rue Boulevard, rue Maréchal Foch à Lorient. Ariki ne travaille pas seul dans ce salon. Il y a d'abord sa sœur Carmen, qui s'occupe de la vente des produits artisanaux marquisiens, et aussi un cousin, Mao, avec qui il partage le cabinet de tatouage. Le tatouage marquisien est celui qui a relancé le tatouage en Europe au cours du XVIIIe siècle, lorsque le capitaine Cook, de retour de son expédition dans les eaux de l'Océanie, ramena avec lui Omai, un Tahitien tatoué, qui fit sensation dans les salons de l'aristocratie européenne. Le mot « tatou » s'articula alors dans toutes les langues du continent. Dès lors, une certaine frange des Européens reprirent cet art du marquage de peau qu'ils avaient abandonné quelques siècles auparavant sous la pression de l'Église. Toutefois, cette pratique resta marginalisée et longtemps affiliée au crime. Le tatouage se retrouva une fois encore doté d'une réputation sulfureuse et il fut mis en récit comme la conséquence d'une contrainte physique et d'une action perverse des primitifs, et dans les imaginaires de l'époque, la pratique ne pouvait être volontaire. Les siècles passent et à la fin du XXe siècle, le tatouage polynésien revient à la mode en France grâce notamment à l'accroissement de la population d'origine polynésienne depuis 1990. Parmi eux, on trouve des jeunes adultes désireux de faire leurs études supérieures en France, mais aussi des jeunes issus de mariages franco-polynésiens ou même encore des enfants des îles adoptés par des couples métropolitains. Ce courant migratoire vers la métropole coïncide avec la naissance d'un courant identitaire culturel dans les îles de l'Océanie. La jeunesse va peu à peu renouer avec ses anciennes pratiques culturelles bridées, voire interdites par les missionnaires catholiques français. La culture polynésienne est plurielle, car ses 5 archipels, avec ses 70 îles habitées, nous fait rêver avec ses riches expositions artisanales régulièrement organisées en Europe. Elles sont l'occasion d'y promouvoir la sculpture sur pierre et sur bois, la gravure de la nacre, de la noix de coco, le tressage sur palme et fibres de coco, la fabrication du tapa, qui sont des tissus brodés de motifs représentant les tikis, ou encore l'art du tatou. On ne peut pas comprendre cet art du tatou si l'on ne s'intéresse pas à la culture polynésienne au sens large. Car par exemple, les motifs proposés dans le tatouage marquisien sont directement représentatifs des religions du peuple polynésien. Mais pas seulement ça, aussi de leur environnement naturel qui diffère selon les îles. Pour info, ce qu'on appelle Polynésie englobe la culture maori, samoa, tahitienne, marquisienne et chacune ont leur spécificité. Vous allez entendre parler des tiki, du travail de l'ethnologue Carl von Steinen. Et avant de laisser la parole à Ariki, le tatoueur italo-marquisien du salon Owata Tiki à Lorient, je vous propose d'écouter maintenant un des mythes fondateurs du tatouage polynésien, à savoir la légende de Ina Ereremanua, qui se fait séduire par les deux fils du dieu Taharoa. Le tatouage, selon une vieille légende polynésienne, serait d'origine divine. Ce seraient les deux fils du dieu Taharoa Matamata Arau et Turaipo qui l'inventèrent pour séduire Ina Ereremanua, la fille du premier homme. Les deux frères transmirent ensuite leur savoir aux hommes qui trouvèrent cette pratique intéressante et l'utilisèrent en abondance. Matamata Arau et Turaipo devinrent ainsi les dieux du tatouage.
L'histoire du premier tatouage remonte à la nuit des temps, quand Taharoa, le créateur, le père des dieux et des mondes, ayant peuplé les cieux d'une multitude de divinités, créa le premier homme. Il le fait venir du monde, du dessous, tout habillé de sable, et il le nomma Tihi. Taharoa donna à Tihi une infinité de pouvoirs, et aussi lui donna une femme, une merveilleuse compagne qui avait deux visages, un visage devant et un visage derrière. Elle fut nommée Ina, Mahi Tuamea, celle qui apaise toute chose. Puis tous deux prirent possession de la terre, se désirèrent et s'épousèrent. De leur union naquit une fille, qu'ils nommèrent Ina Erere Manua, Ina au caractère impétueux. Puis d'autres enfants naquirent et la terre commença à se peupler. Quand Ina devint une jeune fille, ses parents, pour la protéger du monde extérieur et préserver sa virginité, l'enfermèrent dans une vaste propriété entourée d'une solide palissade. Un jour, Matamata Rahu, qui imprime avec du charbon de bois, et Turaipo, qui réside dans le ciel obscur, les deux fils du grand dieu Taharoa, aperçurent Ina qui sommeillait au pied d'un arbre majestueux au milieu de l'enclos qui la préservait de tout contact. En ce temps-là, les dieux venaient souvent rendre visite aux humains pour leur porter secours ou au contraire pour leur jouer des tours. Ils furent subjugués par sa beauté et décidèrent de l'enlever. Ils se présentèrent à elle le matin suivant et lui dirent combien elle leur plaisait et quel merveilleux moment ils pourraient passer ensemble. Ina, obéissant à ses parents, leur répondit qu'elle n'était pas autorisée à leur parler et qu'il ne devait pas rester là, sous peine de provoquer la fureur de son père. Les deux frères se retirèrent et se mirent à parcourir toute la terre à la recherche des plus beaux cadeaux que l'on puisse offrir à une vaïnée aussi délicate. Ils revinrent le lendemain les bras chargés de présents, des fruits rares, des colliers de perles noires, des nacres fines et des houmetés pleins des mets les plus délicats. Ils invitèrent Ina alors à accepter leur cadeau et à les suivre. Une fois de plus, Ina écouta ses parents et refusa l'offre des deux frères. Matamata Rahu et Turaipo faisaient partie du groupe des dieux artisans. C'est donc naturellement qu'ils allèrent demander conseil aux autres dieux. Tohu, celui qui prophétise, créateur des dessins et des couleurs des poissons et des coquillages, les initia au secret de la beauté et créa pour eux le tatouage. Il inventa et fabriqua pour cela les outils d'os et de bois, ainsi que l'encre bleutée qui les embellirait. Matamata Rahu et Turaipo s'ornèrent du motif appelé Taumaromata, puis ils retournèrent danser pour séduire Ina Erere Manua. Ils dansèrent, le visage rougi avec la sève des feuilles du mati et le corps enduit de monoï pour mettre en valeur les dessins bleutés qui les recouvraient. Voyant le magnifique motif symbolisant la séduction, elle fut subjuguée par sa beauté et, écoutant son cœur, trompa la vigilance de ses parents pour s'enfuir avec les deux frères. Elle fut magnifiquement tatouée. C'est ainsi que depuis ce jour, tous les humains s'embellissent pour s'attirer la bienveillance des dieux et plaire à leurs semblables.
Bonjour, je m'appelle Haruki, j'ai 35 ans. Je vis actuellement sur l'Orient. Et ma sœur tient une boutique de tatouage, un shop de tatouage qui s'appelle Huata Tiki Tattoo. Et du coup, avec ma ou, on tatoue actuellement ensemble et on essaie de spécialiser et surtout de mettre en œuvre l'art de nos anciens, donc l'art marquisien en l'occurrence. Et nous exerçons un peu partout aussi en Europe lors des conventions uniquement polynésiennes aussi. Donc moi je suis arrivé dans le tatouage, on va pas dire par hasard, mais grâce à mon premier voyage au Marquise, donc j'avais 16 ans.
Donc moi je suis. Tu es né où, Ricky?
Moi je suis né en France, Donc, ma mère est d'origine marquisienne et mon père est sicilien. Donc après, ils s'engageaient dans la marine. Et du coup, il a rencontré ma mère en Polynésie. Et je suis né en France. Et c'est vrai qu'à l'époque où on était en famille, c'est vrai que ma mère est issue d'une famille où les interdictions étaient présentes aux marquises. Et donc le parler marquisien, la culture marquisienne ne lui a pas été transmise comme il le fallait, quoi, à cause de ces interdictions-là, par les missionnaires notamment. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu une demi-culture marquisienne en métropole. Et moi, je dessinais tout le temps des motifs. Et un jour, ma mère, elle m'a dit, ça, c'est marquisien et faut que tu fasses le voyage pour comprendre ce que tu dessines, quoi. Mais ça, je peux pas te l'enseigner, je peux pas te le dire. Donc elle nous a emmenés, moi et mon frère, aux marquises. Et c'est là que j'ai rencontré mon cousin Germain Teikial d'Hervérel, qui est dessinateur de fou, notamment réalisme et motifs anciens. Et je suis tombé sur
toujours dans la tradition marquisienne ou bien déjà plus ouvert sur le monde actuel.
Alors il s'appuyait de motifs traditionnels sans forcément tout comprendre. Donc il est parti aussi dans le réalisme, quoi, hein, dans le moderne, on va dire, quoi. Mais moi j'ai appris les bases pures, donc ça veut dire les motifs ancestraux. Et j'en ai fait des pages entières et des pages entières grâce à lui. Et aujourd'hui, grâce à lui, moi je me suis lancé dans le tatouage, j'avais 17 ans, quoi. Donc à mon retour en France, j'ai arrêté l'école, j'ai tout arrêté.
T'es resté combien de temps là-bas, aux îles Marquises ?
Je suis resté quelques mois, pas longtemps, et le temps de voir un peu toute ma famille, surtout ma grand-mère qui commençait à partir. Donc là, j'ai pu échanger avec elle pas mal de choses. Et j'avais pas la langue, donc c'était difficile pour moi aussi d'échanger avec ma grand-mère. Donc j'ai dû apprendre sur le tas et tout ça avec les cousins. Aujourd'hui, j'ai la chance que ma mère me redonne toutes ces choses-là. Donc pendant plus de 15 ans, elle s'est remise un peu dans la culture, entre guillemets, puisqu'on lui avait coupé. Mais ouais, voilà, après moi je suis rentré, mais je ne voyais que ça, j'ai été piqué, quoi. Ouais. Et quand j'ai dit à ma mère que j'arrête l'école, elle est devenue folle. Donc j'ai commencé à travailler à droite à gauche sur l'Orient. Et là je suis parti à l'armée. Je suis parti chez les Fusco pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai tatoué des collègues à droite, à gauche, un peu partout dans le monde, dans des endroits hyper insolites, comme le porte-avions Clémenceau à l'époque, on devait ramener avec de la récup du bateau en plus, donc un truc de...
Comment tu pouvais tatouer dans l'armée ? Tu avais du matériel de tatouage ou bien tu te débrouillais avec les moyens locaux ?
Non, je ramenais ma petite mallette de tatouage et tout ça avec grâce au patron qui m'autorisait à m'emmener mon matos. D'ailleurs, que je piquais aussi de temps en temps. Et c'est vrai que avant de poser un stage-co, j'ai fait une embolie pulmonaire. Donc ça a stoppé net mon parcours militaire. Et du coup, j'ai dû me reconvertir dans la foulée. Et ces patrons-là que je tatouais et qui venaient me voir, ils me disaient, mais Alex, tu peux pas rester comme ça, il faut que tu ailles faire le tatouage et tout ça. Mais c'est quelque chose qui est passionnel, quoi. Je veux pas forcément faire mon métier. Et j'ai un ami qui m'a offert un bouquin avec des motifs et il m'a dit, lance-toi. Après, si ça marche pas, c'est pas grave. Et je me suis lancé et ça s'est jamais arrêté. Et voilà, ça continue encore aujourd'hui. Ça fait depuis 2013.
Alors, on commence par le début. Ouata Tiki, qu'est-ce que ça signifie en français ?
Alors, Ouata, c'est la bienveillance. Donc, c'est un motif qui a été donné à ma petite sœur. Donc, c'est son prénom aujourd'hui. Et il lui a été donné à la naissance par ma grand-mère. Donc, ça, ce prénom, c'est un motif qui existe aussi. Et voilà, comme je vous disais, il symbolise la bienveillance et prendre soin de l'autre. Et c'est aussi un peu le nom d'une étoile aussi, c'est ce qui est guidé et protéger les voyageurs lors de leur grande campagne de voyage. Ou, voilà, ou leur...
Et Tiki ?
Tiki, c'est, en gros, c'est l'image. C'est la représentation de l'homme, en fait, de vous, de moi. De... C'est cette représentation-là que les hommes ont commencé à faire, quoi. Donc l'homme en général. Mais le mot Tiki, oui, c'est une divinité, c'est la forme de l'image, quoi, de l'homme.
Par exemple, enfin, pour bien comprendre en français, il peut y avoir un tiki tortue, un tiki remanta, ou je me trompe?
Non,
c'est pas ça qu'il faut. Non, pas du tout.
Non, tiki, c'est vraiment une personnalité. Donc, faut bien comprendre que le tiki, en fait, si aujourd'hui on a tous ces motifs-là, c'est grâce à tiki. Donc, tiki, en fait, il a été démembré. Voilà. En fait, les hommes, à un moment, l'ont détesté. Et ils l'ont démembré parce qu'ils le trouvaient hideux, ils le trouvaient moche. Et ils l'ont écartelé sur les quatre coins des marquises. Et sauf que la reconstitution du tatouage, en fait, ce ne sont que les membres du tiki. Tous les motifs que vous voyez, ce sont que les membres du tiki. Donc ses bras, ses yeux, ses oreilles, sa bouche, son nez, tout ça, ça a une signification. Et c'est aujourd'hui ce que les gens voient, mais qu'ils ne comprennent pas forcément. Quoi. Et aujourd'hui, le but, en gros, c'est de rassembler un nouveau tiki sur chaque personne, en fait. Reconstituer le tiki, reconstituer l'image de l'homme, donc en gros de ce que vous êtes, quoi. Ce tiki-là, il a aussi d'autres motifs qui vont avec lui. Donc il y a la faune, il y a la flore, et ça, c'est le patou tiki, quoi. En vrai marquisien, en ancien marquisien, on dirait le VO. Donc c'est la forme de piquer quelque chose. Là, le mot patou tiki est généralisé dans le monde entier aujourd'hui. Donc, on utilise le mot patou tiki. Mais voilà, c'est totalement marquisien. Et le tiki, c'est une divinité, c'est un homme, quoi.
Ce qui m'a impressionné dans la culture, enfin, dans le tatouage marquisien, c'est qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la culture Tahiti, enfin, la culture polynésienne, l'art de la sculpture, la relation avec la nature, les éléments. Donc, en fait, quand on tatoue, quand on fait des tatouages marquisiens, on donne apparemment une sorte de passeport, de carte d'identité à la personne. Et on le fait en relation avec l'environnement. Est-ce que tu peux expliquer, par exemple, ces motifs qu'on voit, par exemple, des triangles, des tortues, des remantas, des dauphins, à quoi ça s'est relié tout ça, pour comprendre?
Alors, en gros, quand on va élaborer quelque chose avec la personne, déjà, le premier pas, c'est de parler avec cette personne-là, mettre en avant ce qu'elle a envie de mettre en avant, mais c'est surtout à nous aussi de déceler ce qu'elle a en elle naturellement. Et par la suite, en fait, on va élaborer quelque chose qui lui ressemble. Donc par exemple, chez nous, le motif d'une tortue, c'est pas une tortue vraiment réaliste, comme on a l'habitude de voir. On appelle ça un petit peu la tortue touristique. C'est plus une tortue pictogramme, on va dire, en pétroglyphe.
Pétroglyphe?
Ouais, c'est comme des pétroglyphes, puisque c'est ce qu'on trouve sur les pierres chez nous. Donc c'est ce qui a été ressorti directement. Nous, on n'a pas changé le motif qui a été fait il y a des milliers d'années. Et ce motif-là, ben voilà, nous, on sait que ça veut dire la tortue. Tout ce qui est triangulaire, on sait que ce sont des signes de force. Soit les représentations des requins, soit les représentations des montagnes même aussi. Il va y avoir tout ce qui est cétacé. Parce que ça, ce sont des mémoires, en fait, des hommes. C'est ceux qui vivent très longtemps. Donc, les cétacés, ça va être juste des simples vagues. En général, c'est trois vagues avec deux yeux en dessous, quoi. Mais ça reste des motifs qui ne ressemblent pas aux animaux qu'on va citer, ou même à l'environnement que l'on va citer. Les seules choses qui vont peut-être être ressemblantes dans les motifs, enfin, de ce que je connais, c'est peut-être la planche de Kaku, où on voit distinctement une planche avec les pylons de chaque côté et les récipients pour recevoir la fameuse fruit de l'arbre à pain qui a été touki, comme on dit, tapé, et fait comme une pâte, et après plongé dans le lait coco. Donc on voit distinctement sur ces motifs-là qu'il a été fait comme s'il y avait la planche, les deux pylons et les deux récipients, quoi. Après, il y a des motifs qui sont beaucoup plus élaborés, donc ils vont parler carrément d'une famille entière ou d'une lignée familiale. Là, on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus sacrées, on va dire. Et là, ce sont carrément des compositions qui ont dû être réalisées pour des personnes importantes. Donc souvent, elles sont reprises trait pour trait par des tatoueurs qui ne connaissent pas forcément les histoires. Et du coup, ouais, ça, c'est un peu gênant parce que c'est des compositions en plus que grâce à ces petits motifs qui ne ressemblent à rien, bah, on peut en faire des compositions vraiment personnelles à chaque personne, quoi, hein, ou même à chaque famille. Pour moi, c'est des motifs qu'on peut même transmettre à son enfant. Donc moi, j'ai des motifs que j'ai transmis à mon grand aujourd'hui qui a 19 ans, mais parce que ce sont des motifs qui, j'espère, qui sont tellement importants, qui j'espère qu'ils vont continuer dans la lignée familiale, quoi. Mais oui, effectivement, chaque motif a son importance, chaque motif a son emplacement aussi. Il y a des motifs qu'on ne met pas n'importe où, malheureusement. On aimerait bien tester tel truc à tel endroit, mais non, c'est pas possible, quoi.
ดิฉันนุ่นกมลวรรณจากประเทศไทยฉันชอบฟังและกลับมาฟังอีกครั้งอะมิโคอาลาเดรีฟจากช่องทาง cardiobelief.com
Merci à Noon Kam Wan qui nous écoute depuis la Thaïlande grâce à Internet. Faites comme elle, cliquez sur radiobelize.com, grille des émissions et vous pourrez y retrouver les reportages précédents. Ariki, quand on s'intéresse à l'histoire du tatouage polynésien, donc là, tu parlais de la relation entre les motifs géométriques, les figures symboliques et le caractère de la personne. On ne tatoue pas n'importe quoi sur n'importe quelle personne. Il y a un échange, il y a un dialogue. Dans l'histoire du tatouage historique, tel que James Cook, le découvreur, avait ramené même en Europe, il y avait carrément un tatouage qui était réservé aux personnes de rang social, où on pouvait identifier son statut, ses lignées, ses relations avec les autres. C'était réservé qu'aux hommes. C'est un peu ça que tu as découvert en t'intéressant un peu à la culture du tatouage ?
Oui et non. Oui et non, pas forcément. Après, ce que j'ai plus découvert, James Cook a ramené pas mal de détails, effectivement. Il a ramené pas mal aussi de soi-disant trophées qui ont fait qu'on a pu étudier ces choses-là. Et pour moi, quand j'ai étudié le tatouage marquisien, je suis plus tombé sur les relevés de Carl van den Steinen.
Là, on est dans les années 1920, c'est un ethnologue allemand.
Ouais, carrément, même 1890, ses recherches avant qu'il aille sur le pays et quand il est aux Marquises. Et je trouve qu'il explique vraiment que oui, effectivement, il y a un rang social, il y a que certaines personnes et certaines catégories de personnes qui peuvent se faire tatouer des motifs et d'autres, bien sûr, pas du tout de motif, mais il y avait en échange, il y avait une certaine bravoure, il y avait des certaines actions à montrer avant de pouvoir rentrer dans cette lignée de commencer à se faire tatouer. Et je trouve qu'il explique vraiment que chaque motif a sa catégorie, chaque même, comme on peut le voir, chaque style à son importance aussi. Aujourd'hui, on va copier souvent le style de Kahiana Hupe. Pour les marquisiens, les tatoueurs qui connaissent, ils voient que c'est le style qui a les grosses plaques noircies. Alors que Van den Steinen, on a relevé d'autres aussi, des motifs beaucoup plus fins, très très fins. Comme je peux vous le montrer là. Mais voilà, là, c'est beaucoup plus détaillé. Et ça, pareil, ça appartient à une famille, la famille des TII. Et c'est un style qu'on va beaucoup moins copier, par exemple.
Pour bien comprendre, les îles Marquises, c'est pas une île, c'est plusieurs îles. Et dans chaque île, il y a des vallées. Et ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, apparemment là-bas, on marche par clan, par famille. Donc, chaque famille, chaque village a développé sa propre langue de tatou.
Normalement, oui, c'est ça. C'est après Van den Steinen, en gros, il est resté en tout 9 mois, puisqu'il a fait 2 passages. Mais il a pu qu'étudier qu'une certaine catégorie de familles. En plus, une grosse île dans le sud et une grosse île dans le nord. Il faut savoir que les îles Marquises, c'est 12 îles. Donc, 6 habitées et 6 non accessibles pratiquement, puisque c'est vraiment des gros cailloux à brut. Et dans chaque île, il y a une moyenne de dizaines de vallées en général, qui ont leur propre motif, ou alors une base, par exemple le Matarohata qui est une base, bah chaque vallée aura son style de Matarohata, chaque vallée aura son style de Etua, donc les demi-dieux, et ça c'est ou même les corps entiers, ce sera un visuel totalement différent. Il y aura les grosses plaques noircies sur tout le corps, il y aura le fin avec le soi-disant quadrillage sur le torse pour arrêter les balles ou pour arrêter les flèches. Donc voilà, il y avait ce phénomène de croyance, super pouvoir, de magie, et chacun avait son magicien en fait. Donc on appelle ça le Tuhuka, Tuhuka Patutiki, donc le maître tatoueur. Et lui était là pour justement sortir le motif pour telle famille, étudier tel motif magique ou tel motif précieux. C'est beaucoup plus complexe dans ses relevés. Et malheureusement, je pense qu'il n'a pas eu le temps de tout faire.
Donc, comment toi, tu as appris tout ça par tes recherches sur Internet, par ta grand-mère? Tu es resté 9 mois là-bas et tu as appris tout ça avec ses rencontres et Internet, ou bien tu as... j'ai vu qu'il y avait un centre de métiers d'art dans les îles Marquises, animé par Philippe Acuara, qui est un maître sculpteur, donc Philippe Acuara. Et comment, toi, pour connaître toute cette histoire, ces histoires claniques où chaque style était développé, ces rapports entre les vallées, comment tu as fait ?
J'ai échangé, j'ai voyagé, j'ai fait beaucoup de voyages là-bas, aux Marquises. Et par exemple, Philippe Acuara... J'ai eu la chance de pouvoir le voir à Fabulous Tiki à Paris, où on a pu échanger. Ce sont des gens extraordinaires qui partagent par la sculpture, par le tatouage. Et en fait, tant qu'on bouge, on apprend beaucoup de choses. Bien sûr, il y a de l'intox, il y a de l'info, il y a des fake news. Je pense qu'il faut aller le voir en direct live, en fait. J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec des anciens, mais comme des jeunes aussi de notre génération. Puisque c'est quand même notre génération qui reprend le flambeau presque en autodidacte, on va dire. On a juste quelques appuis, quelques écrits, quelques motifs. Mais aujourd'hui, oui, on a une jeunesse qui est super forte. J'ai eu la chance d'échanger avec Tekoe Kaira, qui est un fervent connaissant de sa culture.
Tu échanges par les réseaux sociaux?
Même en direct, on arrive à se voir sur des conventions et tout ça. On essaye même tous de se voir sur des conventions. On échange aussi par les réseaux sociaux, via Facebook, via Instagram aussi. Et aujourd'hui, on a la chance d'être une belle communauté qui se suivent tous. C'est beau à voir, parce que on est des tatoueurs qui s'encourageons tout le temps, qui se donnons tout le temps des bons conseils. Et ça, je pense que c'est rare de voir dans d'autres communautés de tatoueurs ou dans d'autres styles de tatoueurs. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir mettre ça en place, quoi.
C'est la culture polynésienne, marquisienne qui vous unit, qui fait le trait d'union.
Polynésien aujourd'hui, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans les frontières. Là, aujourd'hui, on a eu la chance de pouvoir repousser tout ça. Donc là, aujourd'hui, on échange même avec des Hawaïens. Là, ce week-end, on était à Marseille avec Mahou pour une convention que de Polynésiens. On était avec un Samoan, on a échangé toute une soirée où on apprend encore de nos cultures, puisque eux, ils utilisent le tapping, donc le tatouage à l'ancienne aussi. Et lui, il le pratique encore grâce à son père. Eux, ils n'ont pas eu les interdictions, toutes ces choses-là dans leur pays. Donc lui, il a eu la chance d'avoir une transmission de père à fils, chose que nous, notre génération, n'avons pas eue. Donc aujourd'hui, on essaye tous, quand on se retrouve, de garder cette image en tête, ce qui s'est passé pour justement ne plus lâcher avec nos enfants et continuer à leur donner, et que ça perdure en fait, que ça ne s'oublie plus.
L'émission se termine, mais nous retrouverons Ariki, le tatoueur marquésien, pour la suite de l'entretien qui sera diffusé en début de mois prochain, le premier jeudi à 21h ou le samedi suivant à 10h. Alors je sais, un mois à attendre, c'est long, mais il serait possible de raccourcir ce délai si parmi vous, auditeurs, il se trouvait un ou une aspirante journaliste qui rejoindrait l'équipe de Un micro à la dérive. Je vous laisse donc écouter le générique de fin, qui vous donnera toutes ces précisions. En attendant, retrouvez toutes nos émissions sur radiovalise.com, Un micro à la dérive. Et merci et au revoir.
Un micro à la dérive.
L'émission de reportage Un micro à la dérive vous propose de devenir l'un de ses producteurs, animateurs. Vous êtes curieux ? Vous avez le sens du contact ? Vous voulez traiter des sujets de société ? Alors rejoignez-nous. Vous serez formé aux techniques d'interview et de montage. Pour plus d'informations, contactez Gaëtan Priori au 06 521 585 23, 06 521 585 23, ou par mail à micro@laposte.net. Merci de rester sur Radio Balise.